que le trasplante es volver a vivir.
Je crois qu'une transplantation, c'est recommencer à vivre. Tu récupères ta vie, c'est quelque chose d'impressionnant.
Notre problème fondamental, c'est qu'il y a toujours plus de gens qui ont besoin d'une transplantation et toujours moins de donneurs. Les patients arrivent plus gravement malades et les potentiels donneurs sont dans de moins bonnes conditions.
L'Espagne, elle est leader en prélèvement chez des donneurs décédés. En donneurs vivants, elle a une trajectoire qui ressemble à celle de la France.
Il a 19 ans, il est amoureux, il vient de faire du surf avec ses copains. Quelques heures plus tard, à la suite d'un accident, Simon Limbre est en état de mort cérébrale et un médecin demande à ses parents si l'on peut prélever ses organes. Gros succès de librairie, le roman de Maïlys de Kerangal, Réparer les vivants, a même été adapté au théâtre et au cinéma. Illustration de l'intérêt que suscite le don d'organes, un sujet troublant qui nous amène à la frontière entre la vie et la mort et qui pose des questions éthiques difficiles à trancher. En France, 5900 greffes d'organes ont été effectuées en 2016. En 5 ans, le nombre de greffes a augmenté de 17%, mais des dizaines de milliers de patients sont toujours dans l'attente d'un rein, d'un cœur ou encore d'un poumon. C'est pour cette raison que l'Agence de la biomédecine lance lundi une nouvelle campagne. Elle veut sensibiliser les Français à la greffe rénale à partir d'un donneur vivant. En cas de décès, à moins de s'être inscrit au registre national des refus, nous sommes tous donneurs présupposés. Pourtant, un tiers des familles refusent encore de donner les organes d'un défunt. C'est l'Espagne qui détient le record mondial des donneurs décédés. Quel est donc son secret? Comment parvenir à augmenter les dons d'organes pour ne plus laisser de patients dans une attente sans fin? Dons d'organes, l'Espagne au cœur de l'Europe, c'est un magazine signé Sarah Maquet. En studio avec nous, le professeur Olivier Bastien, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'activité de prélèvement et de greffe d'organes et de tissus à l'Agence de la biomédecine et en duplex de Strasbourg, Laurence Lvoff, chef de l'unité de bioéthique au Conseil de l'Europe, bonjour.
Bonjour.
Nous allons écouter ensemble le reportage de Sarah Maquet. Sarah, vous vous êtes rendue en Espagne, un pays exemplaire en matière de dons d'organes.
Oui, exemplaire notamment en matière de prélèvement sur des donneurs décédés. Le calcul s'effectue dans chaque pays en nombre de donneurs par million d'habitants décédés. Près de 44 donneurs pour 1000 habitants en Espagne, près de 29 en France. Et l'Espagne espère encore améliorer ses prélèvements. Au premier semestre 2017, le nombre de donneurs a d'ailleurs effectivement augmenté de 6% dans le pays. Le problème, c'est que partout, les listes de patients en attente d'une greffe augmentent. En Europe, environ 90 000 personnes attendent une transplantation pour 10 500 dons par an. D'où la promotion du donneur vivant pour la greffe rénale, avec chez nous cette campagne de l'Agence de la biomédecine qui débute lundi. Ou encore le développement des prélèvements sur des patients décédés, non plus seulement après une mort cérébrale, mais également après un arrêt cardiaque.
On part à Madrid à la rencontre d'une patiente venue de Las Palmas dans les îles Canaries. Marie est en attente d'un poumon depuis 9 mois.
Oliver, soy Ángel, ábreme. Vale, gracias.
Gracias.
Mari, encantada.
O María, como quiera.
Hola. Pues cuando el médico me dijo en Las Palmas lo que tenía,
quand le médecin m'a dit à Las Palmas ce que j'avais et que la seule solution pour moi c'était une transplantation du poumon, mais que ça ne se faisait pas dans les îles Canaries et donc que je devais venir à Madrid, au début je ne l'ai pas cru parce qu'à l'époque je n'avais pas encore besoin d'oxygène et ça allait à peu près. Et mes fils, quand je leur ai dit, ils m'ont dit mais non maman, parce que là-bas on ne voit personne de transplanté. On ne parle pas de ça. Alors moi, quand je suis venue ici, je disais que j'allais avoir l'opération et que je ne survivrais pas. Bye bye. Mais peut-être que si, finalement.
Donc là, je suis avec Marie qui vient d'avoir 60 ans et ça fait maintenant 9 mois qu'elle est ici à Madrid où elle attend une greffe de poumon avec un de ses fils qui a 26, hein, su hijo.
Mi hijo 27 cumplió en julio, el 14 de julio nació.
Et qui a eu 27 ans, du coup. Et donc, vous, ça fait aussi 9 mois que le fils parle français. Il fallait que vous veniez, il fallait qu'une personne vienne vivre.
Dans l'avion, il y avait de l'oxygène avec elle. Et il fallait que moi je porte les valises, il fallait que moi j'amène tout partout parce qu'elle ne pouvait pas. Elle était bien dans cette époque, plus ou moins bien. Maintenant, elle est un peu pire. Elle ne peut pas bouger comme avant. Elle peut. Bon, si on sort, on a une petite valise d'oxygène, que c'est 3-4 heures. À la troisième heure, il faut partir, donc elle reste pas sans oxygène, parce que si elle reste sans oxygène, ça commence à avoir des problèmes, les doigts, ça commence à se mettre de couleur violet, il manque d'oxygène. L'hiver, avec le froid et tout, elle se met un peu plus pire, alors elle est en urgence presque toutes les semaines, 2-3 semaines elle est en urgence. Cette année, ça va être un peu plus. Et pour ça, il faut que tout le temps, il y a une personne avec elle.
Là, vous avez décidé de l'accompagner. Vous travailliez peut-être, vous étudiez, vous avez décidé de prendre un...
Oui, jusque je finissais d'étudier traduction, interprétation. Et j'ai commencé à travailler dans une entreprise de seconde main. J'ai trouvé le même travail que j'avais là-bas. Mais à mon travail, ils savent que... S'ils m'appellent, il faut que je pars.
Comme Marie, ils sont quelques centaines par an à devoir venir attendre un organe loin de chez eux. La moyenne d'attente pour un cœur est de 5 mois, 8 mois pour un poumon et jusqu'à 2 ans et demi pour un rein ou un foie. En Espagne, le système de santé est en partie décentralisé. Les provinces sont tenues de payer pour le voyage et le logement. Une aide qui arrive parfois tardivement, alors les assistantes sociales des hôpitaux ou les associations prennent le relais. C'est le cas pour Marie qui est logée par l'association des transplantés du cœur de Madrid. Un tube à oxygène constamment accroché au nez. Elle s'emploie à garder le sourire et l'espoir de bientôt être transplantée du poumon.
On a une photo là, c'est effectivement, il y a un groupe WhatsApp, et donc il y a une photo d'un jeune qui a reçu une transplantation, une greffe de poumon, et il est debout. Alors il a une cicatrice effectivement assez impressionnante.
A mí se supone que me van a hacer unipulmonar. D'accord. Entonces lo hacen por aquí por un lado, me dijo el médico.
Marie devrait avoir effectivement une cicatrice d'un côté. Là, le jeune, comme c'était les deux poumons, on voit une photo où il est entièrement une cicatrice sur tout le buste. Mais après 2 semaines, on le voit debout, 2 semaines après l'opération.
Moi, tout ça me fait dire que voilà, il y a quand même de l'espoir au bout du tunnel.
ONT, buenos días. Sí. Nous sommes au centre de coordination de l'ONT, que c'est l'Organisation nationale de transplantation en Espagne. C'est ouvert 24 heures, le 365 jours par an.
Et vous êtes ?
Je suis Christelle Terron-Manso.
Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?
Ça fait 2 ans et demi. Et les personnes qu'on travaille à la coordination, nous sommes tous des infirmiers et infirmières formés spécialement à la coordination des grèves. Si?
En este instante te lo está mandando mi compañera.
Muchas gracias. Hasta ahora. Bon, là, c'était une question de l'aéroport de Madrid-Barajas. Qu'ils n'avaient pas les dates de l'ambulance qu'il faut que reçoit le rein qui vient de Valencia.
D'accord, donc là c'est l'aéroport qui attendait le contact de l'ambulance.
Oui, parce que l'ambulance, il va jusqu'à la porte de l'avion. Et puis pour rentrer dans l'aéroport, il faut avoir toutes
les autorisations.
Oui.
Le téléphone sonne.
Oui.
Vous répondez.
Oui.
Imaginons là que c'est un hôpital qui vous appelle. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, le coordinateur de l'ONT recueille une série de données de base du dossier médical du patient, comme la cause de la mort ou décès, et les mesures anthropométriques, les maladies qui avaient le donnant ou les traitements, les médicaments. Et les analyses sanguines, on fait spécialement attention au groupe sanguin et la sérologie. Quand nous avons recueilli toutes les données, nous passons à l'évaluation des organes qui peuvent être donnés. Ensuite, nous procédons à leur distribution.
D'accord, donc là vous décidez le cœur,
le foie,
voilà.
Tout.
D'accord.
Ou rien. Il y a des fois que, malheureusement, on applique les critères de distribution qui sont assez compliqués, mais sont les résultats de la combinaison des critères cliniques et des critères géographiques. S'il n'y a pas d'urgence, l'organe est pour l'hôpital donateur, s'il est aussi un hôpital transplantateur.
Oui, donc on essaye, s'il y a personne en Espagne qui a besoin de façon immédiate de l'organe, on essaye de rester dans l'hôpital, si l'hôpital est en capacité de faire effectivement la greffe, d'accord.
Et sinon, si l'hôpital ne transplantait pas, il resterait dans la même ville. sinon dans la communauté autonome, sinon dans la zone, et ensuite dans le tour général d'Espagne, et sinon en dernier en offre à l'Europe. Le temps d'ischémie, c'est le facteur plus déterminant. C'est le temps maximum qui peut s'écouler entre le moment où la circulation sanguine du donateur s'arrête, c'est-à-dire le clamp, jusqu'à son rétablissement par la sang du receveur. Et pour une fois, son 8 heures, pour 6 pour le poumon et les reins, plus de 12 heures.
Et pour le cœur?
Pour le cœur, 6, 5, ça dépend. 5, moi.
Le cœur, c'est pour aller vite. Hein.
Oui, c'est le plus vite.
D'accord. Bon.
Et finalement, le coordinateur hospitalier communique le nom de receveur à l'ONT et on les enlève des listes d'attente afin de le mettre à jour.
Là, par exemple, ce matin, vous avez combien de personnes sur liste d'attente?
Quantos? 6 000, 6 000 personnes. ONT?
Comme dans tous les pays d'Europe, grâce au progrès de la médecine, le nombre de personnes susceptibles de recevoir une transplantation augmente constamment. Jusqu'en 2005, l'unique source de greffons post-mortem provenait de patients en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, des prélèvements sur des donneurs victimes d'un arrêt cardiaque se développent, des donneurs dits à cœur arrêté. Thierry Bernet, chef du service de transplantation des hôpitaux universitaires de Genève, président de la Société européenne de transplantation.
Alors, la mort cérébrale, c'est la perte irréversible et définitive des fonctions du cerveau. Ça se démontre par l'absence de réaction totale à une série de réflexes qui sont bien codifiés. Et par le fait que si on arrête une machine à respirer, les poumons s'arrêtent, on n'arrive plus à respirer. C'est ce qu'on appelle le test d'apnée, donc ça ne fonctionne plus.
La majorité, aujourd'hui, les organes sont prélevés en majorité sur des gens que communément on appelle en coma.
Coma dépassé.
Voilà. Moi, si là j'ai un accident cardiaque tout de suite maintenant, vous pourriez prendre mes organes.
C'est ce qu'on fait. Alors, on a un patient qui arrive par exemple aux urgences et qui fait un arrêt cardiaque et qu'on va essayer de réanimer. Et puis, en principe, quand après 30 à 45 minutes, on n'arrive pas à avoir une fonction cardiaque, ben on déclare, on dit on arrête, patient déclaré mort. Et dans des hôpitaux où cette procédure existe, on peut décider d'essayer de faire une procédure de donneur à cœur arrêté. Ça, c'est un donneur à cœur arrêté instable. Donc, on va attendre une durée de temps qui est définie par la loi, qui est la période où on n'a pas le droit de toucher au patient et où le patient passe du stade de patient à celui de personne décédée. C'est plus un patient, il est mort.
Et combien de temps ?
En Suisse, c'est 5 minutes. En Italie, c'est 10 minutes, ce qui est clairement trop long. En France, je crois que c'est 2 ou 3 minutes, je ne sais plus. Mais à partir de ce moment-là, on peut commencer à réanimer, c'est-à-dire remasser le cœur, faire respirer les poumons avec une machine, mais ce n'est plus un patient, c'est une personne décédée. On a un deuxième cas de donneur à cœur arrêté, qui est le donneur à cœur arrêté qu'on appelle stable, où ce sont des patients qui ne réagissent pas, mais qui ne sont pas en mort cérébrale, parce qu'ils respirent encore, etc. Où là, avec la famille, on décide qu'on va arrêter la procédure de soutien, arrêter le soutien cardio-respiratoire, et puis tenter de faire un prélèvement d'organes. Donc ça, c'est une situation qui est beaucoup plus stable et qu'on a tendance à faire plus fréquemment parce que les organes qu'on arrive à obtenir sont mieux contrôlés.
Les définitions correspondent à une classification des décès après arrêt cardiaque décidée à Maastricht en 1995. Parmi les 4 catégories répertoriées, la 3e définition correspond aux patients décédés par arrêt cardiaque après limitation ou arrêt des soins thérapeutiques. En France, les prélèvements d'organes sur ces patients Maastricht 3 sont autorisés depuis 2014, 2 ans après l'Espagne.
Il faut comparer le travail.
L'hôpital Puerta de Hierro à Madrid a reçu de l'ONT l'année dernière pour transplantation 209 organes de patients décédés par mort cérébrale et 16 organes de patients à cœur arrêté. Carlo Martin est chirurgien cardiaque dans cet hôpital. Il souhaite réaliser des prélèvements d'organes suite à des décès Maastricht 3, un vrai défi pour ses équipes médicales.
Avec le Maastricht 3, tu dois réaliser une limitation thérapeutique et t'assurer de la mort du patient par asystolie. Et après, tu dois recommencer à activer le cœur. Dans cet hôpital, nous travaillons avec le service des soins intensifs pour essayer de réaliser une transplantation à partir d'un décès en Maastricht 3. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Tu as toujours peur qu'avec l'arrêt du cœur, ce cœur soit en souffrance et qu'il y ait des complications lors de la transplantation. Mais notre problème fondamental, c'est qu'il y a toujours plus de gens qui ont besoin d'une transplantation et toujours moins de donneurs. Il y a moins d'accidents de la route qu'il y a quelques années. Les patients arrivent plus gravement malades et les potentiels donneurs sont dans de moins bonnes conditions. Moins de jeunes et donc des donneurs avec de plus grands facteurs de risque. Avec l'âge moyen qui recule, il y a de plus en plus de patients qui ont besoin d'une transplantation cardiaque. Les temps d'attente s'allongent et l'état de certains se détériore tellement qu'ils ont besoin d'assistance respiratoire pour survivre. Il est rare maintenant qu'un patient attende jusqu'au bout un cœur chez lui. Il se retrouve à l'hôpital, aux soins intensifs. Au final, entre l'assistance respiratoire artificielle et la transplantation, bien que la transplantation soit plus efficace, je pense que dans le futur, il y aura plus de mise sous assistance respiratoire. Il y a une pénurie d'organes. D'où nos tentatives de pouvoir prélever des organes après des décès en Maastricht 3.
Votre mari est mort, madame.
C'est pas possible. On vient de le voir en réanimation, il respirait normalement.
Nous vous l'avons expliqué, madame, ce sont des machines d'assistance respiratoire. De son vivant, votre mari pensait-il à la question du don d'organes ? Vous est-il arrivé d'en parler avec lui ?
De son vivant, comme vous dites, il pensait surtout à vivre.
Extrait de Tout sur ma mère, film de Pedro Almodovar, dont l'héroïne est une coordinatrice de greffe. Une fonction au centre du modèle espagnol de transplantation mis en place dès 1979. Ainsi, dans chaque hôpital, une équipe est chargée de repérer les donneurs potentiels et de parler aux familles. Une équipe formée, comme l'a été Pedro Almodovar, par Mamen Segovia, infirmière récemment retraitée.
C'est comme ça dans la formation. On rembobine et on analyse. Dans le premier extrait, ils abordent de façon très brutale la question du don. Il faut être plus sensible. On ne peut pas demander ça comme ça. Là, c'est quand son fils meurt, renversé par une voiture, dans Tout sur ma mère. C'est une coordinatrice de greffe qui participe à la formation et à qui on doit demander d'accepter de faire un don. La même chose qu'elle jouait dans la simulation de la formation.
Donc là, c'est Tout sur ma mère quand le fils meurt, le fils qui a 17 ans, et la question est de savoir comment la mère va accepter cette idée de donner les organes de son fils qui vient de mourir.
Manuela, malheureusement... Le premier électroencéphalogramme ne laisse pas le moindre doute. Il faut prendre une décision, on n'a pas beaucoup de temps.
Me daba mucho miedo que Pedro Almodóvar...
J'avais très peur que Pedro Almodóvar, qui est une personne tellement médiatique et dont les films sont vus par tant de monde, traite du sujet du don d'organes. Pour moi, c'était une personne de plus à qui je devais enseigner et ça n'a pas été difficile. Dans cette relation de confiance, je lui ai dit la peur que j'avais. Il m'a demandé pourquoi. Mais parce que tu as une puissance médiatique importante. Si le thème est bien traité, ce seront probablement des gens qui donneront. Si le thème est mal traité, des gens vont mourir. Ça coûtera des vies humaines. Il est resté ainsi un peu surpris, il a dit « Ne t'inquiète pas ». le traiterait bien. Et c'est fantastique, parce que c'est vrai qu'il le traite de façon incroyable. Et ça, ça a été clairement de la publicité gratuite. L'Espagne n'a jamais fait aucune campagne de promotion du don. Là, ça a été mieux que si on avait dépensé de l'argent dans une campagne de sensibilisation. Cette scène est d'une beauté esthétique incroyable, car je lui avais parlé de la virginité des patients, de comment faire un lit et laver intimement le patient sans le dénuder. On nous apprend à le faire ainsi, sans découvrir totalement le corps, en respectant son intimité. Regardez, c'est une scène d'une beauté incroyable.
Ladies and gentlemen, let's start the ESOT 2017 Congress. Thank you very much.
18e congrès de l'ESOT, la Société européenne de transplantation. Des milliers de professionnels réunis fin septembre à Barcelone. En Espagne, le taux de réponse négative des familles pour le prélèvement des organes de leurs proches décédés est d'environ 15%. Il se situe à plus de 30% en France. Marie-Alice Macher, experte de la greffe rénale et pancréatique pour l'Agence de la biomédecine, agence responsable en France du prélèvement d'organes, de la répartition et du suivi des résultats des greffes.
La loi de consentement présumé existe en France et en Espagne, mais il y a des incitations diverses qui fait qu'ils arrivent à ce très faible taux d'opposition. Et tous les progrès qu'on doit faire pour augmenter notre prélèvement en France, c'est la diminution de ce taux d'opposition avec des campagnes de formation, un renforcement de la loi qui permet aux citoyens d'exprimer plus facilement leur refus de leur vivant pour que les proches, si cette situation de don d'organes se présente, soient au courant de ce que pensait la personne décédée. Le problème, c'est que dans ces 30% d'opposition, il y a une crainte des proches d'aller contre la volonté du défunt, alors que le défunt lui-même était, compte tenu des statistiques dont on dispose, probablement, pour certains, aurait été d'accord. La dernière loi, elle incite à le dire à ses proches, beaucoup plus qu'avant, et les questions qui sont posées aux familles sont faites dans ce sens-là. Quelle était l'opinion de votre proche et pas quel est votre sentiment à vous, proche. Alors en France, on est avec des atouts et des richesses qu'on peut souligner. On a, comme dans toute l'Europe à vrai dire, énormément augmenté les donneurs de plus en plus âgés. Et en France, on a un programme national de préservation des reins des sujets âgés qui sont mis sous des machines à perfuser qui améliorent les résultats. Donc une possibilité d'avoir beaucoup plus de donneurs avec des très bons résultats. Donc ça, c'est quand même certainement un des progrès des dernières années.
Au niveau européen, un des axes de travail, c'est notamment le donneur vivant. Je crois qu'en France, on est un peu en retard. Il y a combien de pourcentages à peu près de greffes qui se font à partir de donneurs vivants? Et est-ce qu'on est un peu en retard, entre guillemets, par rapport à d'autres pays européens?
Actuellement, on a entre 15 et 16% de donneurs vivants sur les plus de 3000 transplantations rénales qui sont faites. Dans les dernières années, on a doublé, plus que doublé, le nombre de greffes. On était à même pas 7% en 2008. Et on continue à avoir une politique d'incitation à ce type de transplantation. L'Espagne, elle est leader en prélèvement chez des donneurs décédés. En donneurs vivants, elle a une trajectoire qui ressemble à celle de la France, c'est-à-dire partant de plutôt bas par rapport à nos voisins et augmentant dans les dernières années. Parce que, comme la France, finalement, le maximum d'efforts a été mis pour le développement des donneurs décédés. Et l'Espagne, effectivement, a créé ce qu'on a appelé le modèle espagnol, avec le maximum d'énergie mis sur la formation des personnes impliquées dans la greffe, leur professionnalisation et l'organisation d'un réseau sur l'ensemble du territoire.
L'année dernière, la France a enregistré 576 donneurs vivants et la semaine prochaine débute une campagne nationale de sensibilisation au don de reins de son vivant. Un sujet très discuté au congrès de l'ESOT avec notamment la possibilité d'encourager les dons croisés. Martine Demeyer, néphrologue aux cliniques universitaires Saint-Luc en Belgique.
Monsieur A ne peut pas donner à son épouse Madame B parce qu'ils ne sont pas du même groupe sanguin, simplement. Et Monsieur C ne peut pas donner à son frère D pour la même raison. Mais on peut éventuellement échanger le donneur pour que les deux couples soient compatibles. C'est un programme qui existe dans pas mal de pays, c'est le Kidnapper and Donor. Mais cela se fait pour le moment par programme plutôt nationaux. Ce qu'apporte le donneur vivant, c'est répondre à cette carence en organes. Même si on est de bons préleveurs, il y a une liste d'attente, les patients doivent attendre. Donc une manière de sursoir à la carence en organes, c'est entre autres d'étendre les critères, de prélever des patients à cœur arrêté, mais c'est aussi de recourir aux donneurs vivants. Ça permet donc de diminuer le temps d'attente et d'autre part d'avoir une très bonne qualité après la transplantation, puisque bien sûr, avant d'accepter une personne comme donneuse vivante, eh bien, il va falloir qu'elle soit en excellente santé. Et donc le check avant va être, on sait exactement à qui on a affaire, on ne va pas prélever un organe si on risque de causer un problème au donneur, à la donneuse. Et donc c'est un garant de qualité et c'est un garant de pouvoir réduire le temps d'attente.
Alors bien sûr, le donneur vivant, c'est un des axes de recherche.
Thierry Bernet, président de la Société européenne de transplantation.
Ce sont des choses qui vont permettre d'augmenter le taux de don d'organes de quelques dizaines de pourcents. Au mieux, on n'arrivera pas à multiplier par 2, 3, 4, 5 en ayant recours à ce genre de stratégie. Mais si on se place à un horizon plus long, évidemment, il y a toute une recherche qui se fait sur la xénotransplantation, donc la transplantation d'organes ou de cellules provenant d'animaux, et avec des outils technologiques qui arrivent, qui permettent de modifier génétiquement les animaux de façon à les rendre aussi peu différents que possible de l'homme pour éviter des problèmes liés à l'incompatibilité. Il y a tout un travail qui est fait dans le domaine des cellules souches, des organes artificiels ou bio-artificiels. Donc tout ça, ce sont des avenues de recherche, bien que là, le problème, il sera plutôt un problème de coût, hein, mais qui vont certainement permettre, en tout cas théoriquement, d'avoir des sources, disons, entre guillemets, infinies d'organes, de cellules ou de tissus de remplacement. Mais je ne pense pas qu'on verra ces stratégies capables de remplacer, de pallier au manque de donneurs d'organes dans les 5 à 10 ans. Ça prendra un peu plus de temps.
Les nouvelles recherches et stratégies auxquelles veulent prendre part les malades. À Barcelone, pour la première fois cette année, en 36 ans de congrès biannuel de l'ESOT, des transplantés ont réussi à obtenir une salle dans le centre des congrès pour une rencontre informelle avec des professionnels de santé. Joseph Martinez Rodriguez y a participé. Il a été transplanté du foie il y a un an et demi, après 18 mois d'attente.
Le peor que se lleva es la lista de esperar.
Le plus difficile, c'est la liste d'attente. Attendre cet appel sans savoir quand il arrivera. Attendre un foie avec la difficulté pour cet organe qu'il n'est pas donné selon une liste d'attente numérotée, mais selon une liste d'urgence. Donc tu peux être dans le haut de la liste et arrive une personne plus malade que toi et tu dois de nouveau attendre. En ce moment, je parle de la Catalogne, il y a 1300 personnes qui attendent un organe. On sait que dans le cas du foie, 7% des personnes inscrites sur la liste d'attente mourront avant d'obtenir une transplantation. Et ça te brise la confiance. Tu penses que tu n'auras jamais de foie. Tu as des hauts et des bas émotionnels importants. Et ça, c'est le pire.
Pour vous, du coup, en tant que patient, quelle est la plus grande attente? Qu'est-ce que vous espérez là dans les prochaines années? Alors, on a parlé tout à l'heure des donneurs vivants. Il y a beaucoup de pistes dans ce congrès qui sont discutées. Vous attendez quoi?
Avant tout, c'est la question de la voix du patient. Qu'elles parviennent à la société scientifique, pas pour leur dire ce qu'ils font de bien ou de mal, mais pour que l'on puisse avoir des objectifs communs. Qu'eux sachent un peu quelles sont nos connaissances en tant que malades et pour nous, mieux comprendre quel est leur travail. Travail que l'on met sur un piédestal et qu'on veut vraiment mieux comprendre.
Merci.
On ne peut pas créer une nouvelle association, on ne peut pas créer une chose différente.
David Paredes, coordonnateur de greffe à l'hôpital clinique de Barcelone.
On veut faire une plateforme de networking, de tout le monde ensemble peut travailler, que l'on doit innover et créer de nouvelles idées. Et con cette idée, on va essayer de faire un action plan pour produire des résultats positifs. En 2019, nous aurons notre prochain congrès de la ESOT et nous allons faire un jour dédié aux patients pour que tous ensemble on peut parler.
Pour faire un plan d'action européen,
Un plan européen, il y a déjà beaucoup de choses à faire par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont faites pour essayer d'avoir des modèle commun de travail, mais chaque pays est différent dans ses propres cultures, structures médicales, structures de santé, de paiement, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui influencent la donation, mais en général, on doit se baser dans une détection active du donneur qui doit être faite par tous les professionnels de santé, tous ensemble pour promouvoir la donation comme une partie intégrale de la vie.
L'Europe est également engagée contre le trafic d'organes. L'Organisation mondiale de la santé estime à 10 000 le nombre de transactions illicites d'organes sur les 130 000 greffes réalisées dans le monde en 2016. Béatrice Dominguez-Gil, directrice de l'Organisation espagnole de transplantation.
C'est un problème qui affecte les pays riches.
C'est un problème qui touche les pays riches et les pays riches ne peuvent pas fermer les yeux face à cette réalité. On sait bien que dans les pays d'Europe occidentale, chaque année, il y a des patients qui disparaissent des listes d'attente et qui reviennent transplantés de pays où on sait qu'il y a du trafic d'organes. Et donc, qu'à l'autre bout de cette histoire, il y a une personne qui a été victime d'exploitation. Si on ferme les yeux sur cette réalité, le tourisme des greffes ne va jamais s'arrêter. C'est pour cela que récemment, au Conseil de l'Europe, sous la direction de l'Espagne, une résolution a été décidée, incitant les gouvernements européens à prendre des mesures contre cette situation. Il ne s'agit pas d'agir contre le patient, mais d'essayer d'obtenir des informations de ce patient pour voir qui facilite ces transplantations, quels professionnels et quels hôpitaux sont impliqués. Car il faut mettre en place des actions contre ces réseaux sans scrupules qui exploitent le besoin des patients en attente d'un organe et à l'autre bout de la chaîne, le désespoir des personnes défavorisées de beaucoup de pays.
Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, une personne a 5 fois plus de probabilité de recevoir un jour un organe que d'en faire don. Nous sommes dans le nord de Madrid avec Francisco Almodóvar Pérez, que tout le monde dans le quartier appelle Paco.
Estamos ahora, tú también estás con nosotros, estamos en Moratalaz.
Alors là, on est en train de boire le café et on est chez vous, Paco. Paco Almodóvar, je vais vous demander votre âge et vous demander aujourd'hui quelle est votre responsabilité maintenant que vous avez reçu, il y a 8 ans, un cœur, un nouveau cœur.
J'ai 77
ans. J'ai 67 ans, bien que mon âge maintenant... Je présume que j'ai 8 ans parce que ça fait 8 ans que j'ai été transplanté. Et je crois qu'une transplantation, c'est recommencer à vivre. Un transplanté, c'est une personne dont l'état se détériore, dans mon cas c'était le cœur. Tu perds ta capacité de mouvement, de respirer, de marcher, etc. Et quand finalement ils m'ont transplanté, ça a été le plus grand jour que j'ai jamais eu dans ma vie. L'expérience la plus incroyable, commencer à sentir que tu recommences à vivre. Ils m'ont transplanté le 24 juin, c'est la date à laquelle je fête l'anniversaire de ma seconde vie. 2009, nous sommes en 2017, j'ai donc 8 ans. J'ai entendu un cardiologue dire à un autre que j'avais eu de la chance car j'ai reçu le cœur d'un jeune cycliste qui est mort. Je suis vraiment désolé qu'il soit mort, mais dans une certaine mesure, il continue à vivre en moi. J'ai une anecdote. Une personne plus âgée me disait, « Moi, je t'aurais pas donné mon cœur, car qu'est-ce que je ferais si demain, car je suis catholique, et que dans la résurrection, que va faire un ressuscité sans cœur ?» Et moi, je lui ai dit, « Mais tu n'as rien compris à la religion. » Mais bon, tu es libre de penser, de décider ce que tu veux. La transplantation, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une merveille. Quand tu as connu cet état de détérioration, quasiment au point de mourir, et qu'avec une opération, tu récupères ta vie, c'est quelque chose d'impressionnant. Moi, je ne crois pas au miracle ou à toutes ces choses, mais ça, c'est plus qu'un miracle. C'est plus.
How is Degam julinga
Don d'organes, l'Espagne au cœur de l'Europe, un reportage de Sarah Maquet. Nous sommes toujours avec le professeur Olivier Bastien de l'Agence de la biomédecine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'activité de prélèvement et de greffe d'organes et de tissus en France. Et depuis Strasbourg, Laurence Lvoff, chef de l'unité de bioéthique au Conseil de l'Europe. Olivier Bastien, j'aimerais bien que l'on revienne d'abord sur les conditions qui doivent être réunies pour le don d'organes. Le pronostic sera meilleur si l'organe est celui d'un donneur vivant. Est-ce que il y a une limite d'âge concernant les donneurs?
Alors, pour les donneurs décédés, il n'y a pas de limite d'âge. C'est l'évaluation après le bilan médical qui permet de savoir si l'organe qui peut être prélevé est en bonne condition ou non. Mais on peut prélever après 80 ans. Pour un donneur vivant, c'est différent puisqu'il va y avoir une anesthésie, une chirurgie de prélèvement et la personne ne doit courir aucun risque. Donc, c'est plus difficile pour une personne âgée.
D'accord, on va tenir compte effectivement des conséquences pour elle après. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur notre donneur? On entendait Paco qui disait « Moi, j'ai le cœur d'un jeune cycliste ».
Oui, alors c'est formellement interdit en France. C'est aussi interdit en Espagne, mais bon, visiblement, il y a des fuites.
Mais, il a entendu par hasard, hein, je tiens à préciser. Ah bon, il a entendu par hasard.
Oui, voilà. Il
ne savait pas qui c'était.
Voilà, il y a effectivement toujours la possibilité d'entendre dans une discussion ou je ne sais pas quoi, une bride, mais la connaissance du donneur est interdite.
Laurence Lvoff, est-ce que ça vous paraît souhaitable, vous, qu'on puisse avoir des informations sur son donneur? Il me semble qu'aux États-Unis, par exemple, il y a même parfois des rencontres entre le père d'une personne décédée dont le cœur a été donné à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, effectivement, cette question de l'anonymat du don est particulièrement importante. Je pense que derrière, il y a véritablement un souci d'éviter des pressions, qu'elles soient volontaires, intentionnelles, sur le receveur, la famille du receveur, et un sentiment de dû avec un lien identifié entre la famille du donneur, s'il s'agit d'un donneur décédé ou le donneur vivant éventuellement, mais l'idée est vraiment que ça reste quelque chose d'altruiste et de généreux, d'éléments de solidarité, et la question de l'anonymat est guidée vraiment par ce problème d'éviter des pressions. Pour autant, à ma connaissance, mais le docteur Bastien pourra le confirmer, il me semble qu'il est possible, sans pour autant que la famille du receveur ou le receveur soit informé de l'identité du donneur, que par l'intermédiaire de l'équipe médicale, éventuellement, un message puisse être adressé à la famille du donneur, si le receveur le souhaite, donc dans le respect de l'anonymat, mais pour autant, si le receveur éprouve le besoin de le faire, et on peut le comprendre, qu'il puisse adresser un message en conservant et en respectant l'anonymat du don.
Si possible, effectivement, ça passe par l'agence de la biomédecine et les services de régulation qui transmettent un message anonyme comme quoi le receveur les remercie et va bien.
Alors, avant d'enclencher la procédure du don d'organes, on apprécie l'état psychologique du donneur. Donc, ça souligne le fait que ça n'est pas un acte anodin, Olivier Bastien.
Pour les donneurs vivants, il y a effectivement la nécessité d'une évaluation à la fois de la liberté de la prise de décision, mais aussi de son état psychologique, parce que après, il va falloir que cette personne assume les suites.
Et pour le receveur, ça n'est pas négligeable non plus. Hein, c'est pas rien de recevoir un organe.
Bien sûr. Alors le receveur, bien sûr, connaît lui son donneur dans le cadre du don du vivant. Hein, on est dans une relation de proximité, ou même une relation stable depuis plus de 2 ans d'après la loi. Et donc effectivement, il faut vérifier que leur relation n'est pas modifiée par ce don.
On a du mal à imaginer que ça ne soit pas modifié d'ailleurs.
Ben, ça peut être modifié de façon favorable, mais à un moment, il faut aussi une acceptation de cet organe et continuer une vie la plus normale possible.
Et d'ailleurs, dans le cas des donneurs croisés, donc on entend effectivement que ça se développe. Là, ces personnes ne se connaissent pas. En France, comment ça se passe? Il n'y a pas une recherche systématique? Par exemple, vous avez 2 personnes incompatibles. Va pas y avoir une recherche systématique et automatique d'un autre couple, entre guillemets, de donneurs?
C'est pas automatique. C'est l'équipe qui propose au couple, par exemple, qui ne peut pas être donneur entre lui, d'être inscrit sur cette liste de dons croisés. Et cette recherche se fait à ce moment-là uniquement.
Ça, c'est une façon, c'est une recherche intéressante pour peut-être avoir plus d'échanges de dons, de greffes.
Voilà, et probablement qu'il faut la développer au niveau européen, parce que ça s'adresse à des patients très particuliers qui sont immunisés, qui ne peuvent pas avoir de greffe compatible facilement. Donc il faut élargir le cercle des donneurs potentiels.
C'est assez marginal pour l'instant, le don croisé ?
C'est marginal à la fois pour des raisons éthiques, puisqu'on ne fait pas de don altruiste en France, à la différence des États-Unis par exemple, et qu'il faut l'élargir. Donc on a par exemple des programmes d'échange pour le don croisé avec la Suisse par exemple.
Une question de Sarah Maquet.
Oui, alors on parle des donneurs vivants et dans le reportage, on a évoqué les donneurs à cœur arrêté. Et j'ai découvert et j'ai pu beaucoup échanger avec les personnels sur ce Maastricht 3. Alors c'est assez complexe si on prend la définition effectivement qui a été rédigée à Maastricht en 1995. On parle des personnes qui, après une décision d'arrêt des soins thérapeutiques ou de limitation thérapeutique, vont avoir un arrêt cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer exactement et au niveau éthique aussi, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est exactement déjà Maastricht 3?
Alors, le Maastricht 3, c'est effectivement le prélèvement après un arrêt cardiaque. Il y a deux types d'arrêt cardiaque, quelque part. Il y a l'arrêt cardiaque non contrôlé, ce qu'appelait le Suisse, je ne sais plus comment, non contrôlé. C'est-à-dire que l'arrêt cardiaque dans la rue, le SAMU fait des manœuvres de réanimation, n'arrive pas, et la personne est ramenée sur un hôpital. Il y a constat d'un échec de la réanimation. La personne est donc déclarée décédée. Et on va, à ce moment-là, introduire une procédure de prélèvement dans ce cadre de l'arrêt circulatoire, plus exactement. C'est comme ça que ça s'appelle médicalement. Et puis, il y a l'arrêt circulatoire qui est attendu dans le cadre d'une personne pour laquelle il n'y a plus d'espoir thérapeutique. Donc, une décision est prise d'arrêt des thérapeutiques actives est devenue inutile entre l'équipe soignante et la famille du patient. Cette décision d'arrêt thérapeutique aboutit à un arrêt cardiaque, mais à l'hôpital cette fois-ci. Et auparavant, on a abordé la question du don d'organes. Et si c'est la volonté du patient exprimée, eh bien, il y a à ce moment-là une procédure de prélèvement d'organes. C'est ça le Maastricht 3, l'autre c'est le Maastricht 2. Voilà.
Mais c'est à ce moment-là, effectivement, que c'est le plus difficile à cerner pour les gens qui sont extérieurs à tout ça. Parce qu'on voit un proche qui est encore, comme le disait la dame dans le film de Pedro Almodovar, elle dit mais il vit encore en fait.
Non, alors ça c'est dans la mort encéphalique. Dans la mort encéphalique, le cœur bat, si vous voulez, et la circulation est assurée.
Pourquoi j'ai pas encore
tout compris ? L'apparence extérieure de la personne est d'une personne qui est dans le coma mais qui vit. Alors on n'utilise plus le mot d'ailleurs coma dépassé puisque la personne peut être déclarée morte. Son cerveau est définitivement détruit. Mais l'aspect extérieur est celui d'une personne encore chaude. Alors que dans l'arrêt cardiaque du Maastricht 3, la personne donne l'apparence totalement et froide, comme une personne décédée. Si vous...
Alors, Laurence Wolff, on voit qu'il est devenu vraiment difficile en fait, de placer le curseur entre la vie et la mort. Donc ça pose plein de questions pour vous, qui justement vous penchez sur ces questions éthiques.
Je vais revenir justement sur ce Maastricht 3, non pas pour y rentrer sur le plan technique, ça ne relève pas de ma compétence, mais simplement pour insister justement dans ce contexte-là où on est effectivement face à une pénurie d'organes et où les différentes approches à la fois sur le prélèvement d'organes d'origine cadavérique et sur des donneurs vivants peuvent être considérés comme complémentaires et répondent vraiment à une nécessité thérapeutique. Mais on voit bien effectivement l'importance de la transparence, l'importance de la confiance dans le système, d'avoir des critères objectifs, des règles bien respectées, pour éviter notamment, dans un contexte comme le Maastricht 3, donc pas dans le cas évoqué où il y a eu un échange avec la famille et il y a eu une décision d'arrêt de traitement, mais dans l'autre cas, pour éviter que éventuellement on se pose la question de savoir si on a vraiment fait tout ce qui était nécessaire pour sauver la vie de la personne, et ce n'est vraiment qu'au bout de ces essais qu'on envisage éventuellement que cette personne passe à un statut de donneur. Donc nous, au niveau européen, il est évident que on réfléchit à une échelle de 47 États membres en ce qui concerne le Conseil de l'Europe et qu'on comprend bien l'importance de s'assurer que dans l'ensemble de ces pays, on a cette transparence, ces règles claires et ces critères objectifs sur le plan médical et le respect de la volonté des personnes qui soient bien appliqués pour éviter finalement qu'on jette le doute, qu'on mette en doute le système tel qu'il est et qu'on ait des inquiétudes sur la réalité des efforts qui auront été faits et qu'on soit vraiment dans les conditions appropriées pour le prélèvement et pour la greffe, extrêmement importante puisque ça sauve des vies.
Je dirais pas qu'il y a, c'est parce qu'il y a un besoin d'organes qu'on va aborder la fin de vie. La fin de vie, c'est un problème et ça peut être abordé dans le cadre d'un soin à une personne mourante. Et c'est une dissociation complète entre la prise de décision d'arrêter et d'accompagner la personne en fin de vie et celle du prélèvement d'organes. Donc ça doit être deux décisions différentes.
C'est bien ça que je voulais dire. Je suis désolée si ce n'était pas assez clair, mais quand je parle de transparence et de règles bien précises, c'est justement de bien clarifier ce qui relève des soins à la personne et ce qui va ensuite relever du prélèvement et de la greffe. Ces éléments-là et la transparence de ces systèmes, la distinction entre les équipes, tous ces aspects-là sont particulièrement importants. Dans ce contexte-là, je pense que c'était ça ce que je voulais exprimer et ça recoupe tout à fait le souci que vous venez de souligner.
C'est pour ça qu'en France, il y a un seul protocole qui est national et qui est imposé et on ne peut pas, à la différence de l'Espagne qui a l'air de vouloir travailler sur le Maastricht 3 cœur, avoir une équipe qui dans son coin essaie de développer tout seul un protocole.
C'est quand même réglementé par le national, hein, en Espagne aussi quand même, attention. Et c'est aussi des équipes différentes entre le prélèvement.
Mais encore une fois, on est dans une démarche altruiste, non commerciale, et ça c'est formellement interdit, et tout le monde s'accorde sur ce plan-là, et dans ce cadre-là, encore une fois, la confiance dans le système est extrêmement importante, donc avoir des règles claires, des responsabilités bien définies, des critères objectifs dans tout le processus, c'est extrêmement important.
Laurence Wolff, d'ailleurs, en tant que chef de l'unité de bioéthique, vous vous posez ces questions qui sont beaucoup débattues à l'ESOT. On m'a parlé de ces débats au Conseil de l'Europe sur la notion de la limite, de la ligne de l'acceptable et du non acceptable. Bien sûr, des choses inacceptables comme payer, ça, tout le monde est d'accord. Mais après, je crois qu'on parle de zones grises également en Europe sur des choses qu'un pays va accepter. Un autre nom, ça vous travaillez là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples?
Je dirais que la zone grise n'est pas forcément d'un pays à l'autre. Effectivement, actuellement, nous penchons au Conseil de l'Europe et notamment dans le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe sur la question d'un principe qui figure dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. On reviendra peut-être sur ce texte ultérieurement, qui a été repris dans des textes de l'Union européenne, qui est l'interdiction du profit et le fait que le corps humain et ses parties en tant que telles ne peuvent être source de profit. La question est effectivement que s'il y a de toute évidence des pratiques qui vont être contraires à cela, il y a d'autres pratiques où effectivement on peut se poser la question de savoir si on est dans ce qui est compatible avec ce principe ou ce qui ne l'est pas.
Comme ?
Et la réflexion que mène le comité de bioéthique dans le but d'élaborer un guide qui doit être finalisé prochainement, c'est d'essayer de clarifier un petit peu les termes de ce principe et ce qui est autorisé sous ce principe et ce qui ne l'est pas. Ce qui est autorisé, c'est par exemple le fait que on puisse indemniser un donneur pour une perte de revenus qui va être liée au fait qu'il est donneur, qu'il a à prendre congé de son emploi, qu'il va avoir un suivi médical, etc. Donc qu'il soit indemnisé pour la perte de revenus éventuelle qui soit associée à la démarche du don, qu'il puisse aussi être remboursé de ses frais justifiables qui sont liés aux dons, qui peuvent être le voyage, qui peuvent être des actes médicaux, qui peuvent être un suivi médical. Donc que pour lui, cet acte de don, qui est quand même déjà un engagement fort, ne s'accompagne pas d'un coût financier, en quelque sorte que le don soit neutre. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec l'interdiction du profit. Ce qui ne l'est pas, c'est quand on est véritablement dans une commercialisation. C'est-à-dire que finalement, on va proposer à la personne, ou bien il y aura un profit par des intermédiaires ou d'autres acteurs du processus, mais je reviens au donneur potentiel, lui proposer quelque chose qui va faire que, à cause de cette proposition, qui peut être financière ou d'une autre nature, il va accepter de prendre des risques qu'il n'aurait pas accepté de prendre en d'autres circonstances. En d'autres termes, accepter de donner alors qu'il n'avait pas forcément envisagé ou qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cette mesure supplémentaire.
Alors on dit qu'au niveau...
C'est cette ligne-là qui n'est pas facile forcément à définir. Par ailleurs, et je terminerai, c'était un petit peu long, mais je terminerai sur cet aspect-là, il faut bien comprendre que ce qui peut être considéré comme une compensation dans un pays avec un certain niveau économique et social, quand cette même compensation est proposée à quelqu'un qui vient d'un autre pays où le niveau économique et social n'est pas le même, on peut passer de quelque chose qui est de la compensation à quelque chose qui est de l'incitation. Et c'est également là-dessus que l'on se penche pour éviter justement que l'on se retrouve dans des situations qui relèvent de cette commercialisation en quelque sorte, ou de cette incitation qui n'est pas acceptable sur le plan des droits de l'homme, puisqu'on est véritablement là dans ce qu'on pourrait appeler une exploitation de la vulnérabilité des personnes.
Alors qu'est-ce qu'on fait contre cette commercialisation et plus largement contre le trafic d'organes, Olivier Bastien ?
Alors en France, il n'y a pas de trafic d'organes. Il peut y avoir effectivement...
Il n'y en a pas en France, mais il y a éventuellement des personnes qui peuvent partir à l'étranger pour se procurer
voilà,
ce dont ils ont besoin.
Il y a effectivement quelques personnes qui... qu'on essaie d'identifier chaque année, qui peuvent partir pour des raisons qui leur sont propres. C'est parfois des gens qui sont binationaux et qui ont un donneur dans un autre pays et qui vont le rejoindre. Voilà, ces personnes, quand elles reviennent sur le territoire, elles sont de toute façon soignées. Hein. Ça n'empêche pas qu'il faut lutter et respecter les conventions internationales en termes de protection du donneur, parce que ces donneurs peuvent aussi prendre un risque pour eux-mêmes.
Mais donc, elles vont être soignées, mais il y a quand même la loi qui sanctionne...
La loi sanctionne les professionnels ou l'incitation ou les gens qui font un trafic. On ne va pas sanctionner un malade qui de lui-même a payé ou qui... voilà. Après, c'est tout à fait ponctuel. Voilà, c'est une discussion qui, effectivement, est à la fois intermédiaire entre l'éthique et le juridique, on va dire. Mais on privilégie d'abord la santé du patient. Mais en France, ça n'existe pas. On regarde les problèmes avec importance parce qu'on sait que ça existe dans certains pays. Ça n'est pas le problème de la France.
Alors, puisqu'on est dans les questions d'argent, une greffe, ça coûte cher ?
Alors, les traitements d'une greffe coûtent cher, mais une greffe coûte beaucoup moins cher que la prise en charge, par exemple, en dialyse. Donc, à chaque fois qu'on fait une greffe, on fait faire des économies importantes à la sécurité sociale.
Ce qui est important.
Absolument.
Évidemment, une de vos préoccupations, c'est d'accroître les dons d'organes. On a clarifié la loi pour que les choses soient plus évidentes pour les gens, qui sachent un petit peu mieux à quoi ils sont, qu'est-ce qui leur est possible ou impossible. Ça a d'ailleurs rendu les choses plus favorables aux dons d'organes, hein, Olivier Bastien.
L'évolution législative ?
Oui. Alors, c'était récent qu'on a remis un petit
peu
les choses au clair.
Bien sûr, c'est un tout petit peu tôt pour l'évaluer, mais le gros impact, à mon sens, de cette loi, c'est d'avoir levé un tabou autour de la mort et autour du positionnement. Et le fait que maintenant, plus de la moitié des Français, clairement grâce à vous, grâce aux médias, sont capables maintenant d'expliquer clairement la situation et la loi en France. Et donc plus de la moitié des Français sont capables de dire spontanément « on est tous donneurs potentiels, sauf si on s'y est opposé », ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans.
Oui, parce qu'effectivement, donc, la loi du tous donneurs date de 1976. Alors,
absolument, il y a 40 ans.
Tout à fait. Et en janvier, il y a eu une sorte de renforcement législatif avec notamment la mise en place du registre des refus. Donc là, on va avec sa pièce d'identité. On dit clairement, on ne veut pas qu'on prélève nos organes si un décès survient. Et il y avait donc en 2015 90 000 personnes inscrites. Aujourd'hui, on est à plus de 300 000.
Un petit peu moins de 300 000.
Ça veut dire quoi? Qu'il y a plus plus de monde qui refuse ou au contraire qu'il y a plus de monde qui sont au courant et qui clairement se positionnent?
Voilà. Le registre existait avant, il a été automatisé, simplifié, de façon à on peut s'inscrire en 3 minutes. Donc le but c'était que les gens connaissent et puissent s'inscrire facilement. Voilà, donc c'est fait.
Très bien.
Merci beaucoup Laurence Lvoff, merci Olivier Bastien. C'était le magazine de la rédaction Don d'organe, l'Espagne au cœur de l'Europe, avec des reportages de Sarah Maquet, Annie Brou à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique à Paris et Ernst Huberlacker au Conseil de l'Europe. Vous pouvez retrouver ce magazine avec des informations complémentaires sur le site internet franceculture.fr.